Merci, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour mon frère, comment vas-tu? Tout va bien. Amen. Alors est-ce que vous, comme mon frère, vous êtes bien quand vous êtes dans la présence du Seigneur? Est-ce que cela veut dire que quand on sort de la présence du Seigneur, on n'est pas bien? C'est une logique, n'est-ce pas? Permettez-moi de vous poser une question. Vous venez au culte le dimanche pourquoi? Puisque, par logique humaine, pour ma logique, si j'ai Jésus en moi, vous m'avez suivi ou pas? Alors pourquoi venons-nous au temple le dimanche? Pour le louer ensemble. Pour lui montrer notre reconnaissance? D'accord. C'est merveilleux. Soit je continue de manière humaine et nous sommes là pour 14 heures, ou soit je laisse place à l'Esprit et au Seigneur. Vaut mieux? Oui. Prenons notre texte biblique qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 1. Nous sommes dans cette série de prédications sur... intitulé « Vivre autre chose autrement ». Vivre autre chose autrement. Exode chapitre 1, à partir du verset 1, nous allons faire lecture jusqu'au verset 14. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, et s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Et il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voici, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons. Montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui, c'est-à-dire sur Israël, des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasin à phare. Verset 12, « Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. Frères et sœurs, en préambule, je voudrais vous dire ou vous rappeler plus précisément que la Bible n'est pas un livre d'histoire, que la Bible n'est pas un livre de contes ni de fables. La Bible est la parole de Dieu. Contenant des faits historiques, certes, et au travers de ces faits, Dieu nous parle. À la lecture de ce passage, je peux dire, à la première lecture, que la vie, on a chanté que la vie est un fleuve et nous voulons venir dans ce fleuve, nous laver, rencontrer Jésus. Mais frères et sœurs, est-ce qu'on a déjà entendu que la vie n'est pas un fleuve tranquille? Et je dirais que la vie, c'est, elle est comme une fleur, une belle fleur, mais une fleur avec des épis. Il faut faire attention quand on la saisit. Parler de Dieu, parler de la gestion du monde, quand on lit ce texte, on réalise que rien n'est si simple que ça. Francis Schaeffer, un théologien, a dit que a écrit un livre, et ce livre est intitulé « Dieu est là, il n'est pas silencieux ». Dieu est là, il n'est pas silencieux. Et pourtant, combien de fois dans nos vies, nous avons l'impression que Dieu n'est pas présent. Premièrement, et que deuxièmement, Dieu souffre de mutisme. Parce qu'il ne parle pas. On dirait que le ciel est fermé. Frères et sœurs, nous savons pourtant que Dieu est là et qu'il gouverne le monde. Dieu, notre Dieu, l'Éternel, le Père de Jésus-Christ, n'est pas comme ces dieux de la mythologie, n'est-ce pas, dans ce monde créé, étant sur l'Olympe et regardant en contrebas comment les hommes se démènent dans leurs problématiques. Notre Dieu n'est pas comme ces dieux. Notre Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, et il en prend soin. Alors on peut se dire, ah oui, mais pourquoi Dieu ne fait pas? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi? Mais c'est pourquoi qui nécessite une réponse. Dieu répond, pourquoi? M'avez-vous compris? Et ce pourquoi entraîne pour que. N'est-ce pas? Pour que l'homme se tourne vers lui.
Amen.
Lors de rassemblements de scientifiques, d'éminents experts en mécanique quantique, où ils se demandaient, mais où va le monde? Pourquoi? Vous savez, à ce niveau de réflexion, frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de citer. Même le vocabulaire va nous insulter. Et ces hommes à qui Dieu a donné l'intelligence, ces hommes recherchent la vérité dans l'être. Ils recherchent l'origine de toute chose. Et Max Born, un physicien, a conclu, a voulu faire taire tout bavardage en disant le vieil homme. Et je suis convaincu qu'il ne lance pas l'idée. Albert Einstein a repris cette phrase en la déformant un peu lors d'un congrès aussi de scientifiques en disant à ses collègues qui se demandaient mais pourquoi et comment l'univers agit et interagit de la sorte, Albert Einstein a dit « Dieu n'est pas un lanceur de dés ». Cela veut dire que rien n'est pris au hasard avec Dieu. Et Einstein s'est positionné en disant qu'il n'y a pas de hasard existentiel dans l'univers. Le monde et l'univers tiennent par la parole de Dieu. Bien-aimés, il est bon de se poser des questions sur la vie, l'existence de la vie, sur les déboires qu'ont vécu le peuple d'Israël et que nous reprenons, si nous reprenons ce texte, la première chose à dire, c'est que, frères et sœurs, Israël était dans cette situation à cause de son désobéissance. Quelquefois, on plaint l'autre, quelquefois, nous nous plaignons nous-mêmes. Disant que Dieu est injuste. Mais soyons réalistes. Je sais que vous n'avez pas aimé ce matin. Mais je voudrais qu'on entre au plus profond de nous-mêmes. Dans ce que certains théologiens appellent notre tribunal interne. Réalisons, frères et sœurs, que C'est à cause de nous que nous sommes dans certaines situations. Nous n'écoutons pas les conseils de Dieu, ni même les conseils des autres. La parole dit, par rapport à cette révélation, cette parole de révélation de connaissance, la parole dit de analyser. Analyser. Retenez ces vieux mots. Mais à quoi aujourd'hui certains chrétiens sont devenus comme ils sont devenus? Ben, c'est avalé, hein? Non, c'est pas Dieu qui a parlé ici. La sœur a dit, c'est la féminité. Mais vous imaginez, frères et sœurs, les conséquences? On arrive là-haut dans le ciel de gloire, et le Seigneur nous dit, mais tu n'as pas entendu ma parole? Que tu tournes en rond et que j'ai horreur des ronds-points? Parce que dans mon église, il n'y a pas de gilet jaune. Donc, il faut prendre, frères et sœurs, il faut analyser la parole et reconnaître si elle est pour nous. Et se repentir. Quelquefois, on pleure sur l'attitude et la situation de l'autre, mais on a beau jeûner et prier, tant qu'il ne se repent pas, la situation va rester la même. Et je souhaite de tout mon cœur, c'est le vœu pour moi aujourd'hui, que l'Église reprenne ce cœur de chair que le Seigneur lui a donné. Que l'Église réalise quelquefois, oui, c'est vrai, on fait des faux pas. On fait des faux pas et le Seigneur, comme à l'image d'Israël, le Seigneur nous punit. Espérons ce matin que tu retournes au pied du Seigneur. Deuxième constat, frères et sœurs, en lisant ce texte, il m'a interpellé. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle, certes, et nous répondons à son appel. Conversion, repentance, pardon, demande de pardon, baptême et compagnie. On reçoit l'Esprit Saint, tout et tout, c'est très bien. Mais quand on lit la Bible, est-ce qu'on se laisse interpeller? Quand on écoute la parole de Dieu, est-ce qu'on se laisse interpeller? C'est-à-dire, est-ce que cette parole fait écho en nous et bouleverse ce qu'il y a de plus profond en nous? Il faut, bien aimé, nous laisser interpeller par la parole de Dieu. Le texte dit qu'il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, c'est-à-dire un autre pharaon. Première interpellation, mais ce pharaon qui est présent, il n'a pas entendu dire ce que l'Éternel avait fait au travers de Joseph. Comment l'Éternel lui avait donné un esprit de sagesse afin de retirer l'Égypte de la famine. Ce pharaon n'était pas au courant de ça. Certainement oui, frères et sœurs. Il y a des faits qui ne passent pas. Mais la compréhension se situe dans le littéraire de « il s'éleva ». C'est-à-dire que la racine belge du mot signifie que ce roi, dans son cœur, allait d'ores et déjà être contre Israël. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple. Et c'est la première notion de peuple concernant Israël. On le trouve ici, dans cette partie-là. Plus nombreux que nous et plus puissants que nous. Le peuple s'accroît, frères et sœurs, et son influence ne va qu'en grandissant. Autre interpellation, comment se fait-il, frères et sœurs, que ce peuple qui se trouve en esclavage puisse s'accroître de manière démesurée? Le mot en hébreu, c'est proliférer. Vous imaginez ça un peu? Proliférer. J'ai appelé des amis qui ont plus d'instruction que moi. Ils sont plus savants, entre autres le sociologue, et qui m'a dit, non, Fernand, tu te trompes. Tu as beau être serviteur de Dieu, mais vraiment, il faut que tu retournes ces mots à l'école. Alors je lui ai dit, ok Pierre, je t'écoute. Et il m'a dit, mais Fernand, c'est pas possible, ton texte a une erreur. Parce qu'en tant que sociologue, je peux te dire que quand un pays souffre, quel que soit le domaine politique, social, relationnel, économique, ce pays n'a pas d'accroissement. De manière très simple, on ne fait pas des enfants pour les faire vivre ce qu'on vit. Je lui ai dit, d'accord. Et il m'a dit, trouve la réponse ailleurs. Je lui ai dit, c'est bien d'avoir des amis. Et là, je suis resté pendant 2 jours, je crois, oui, 2 jours, où je tournais en rond. Et là, je me suis rappelé de l'étude de vendredi, de jeudi. Le peuple de Dieu, dans le pays de Dieu, avec les bénédictions et les promesses de Dieu. Et là, c'est resté dans ma tête pratiquement une journée. Et je dis, mais Seigneur, retire ça de ma tête. Non, c'est la réponse qu'il me donnait. Israël, le peuple de Dieu. Mais où était la promesse? La promesse se trouve en Genèse. Quand il parle à Abraham, il dit à Abraham, en Genèse 17, à partir du verset 2, j'établirai mon alliance avec, entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Et je dis, mais Seigneur, d'accord, s'il multiplie et qu'il croit, ce n'est pas simplement l'effet des hommes, c'est ta promesse qui s'accomplit. L'accroissement du peuple d'Israël est en accord avec la promesse que Dieu a faite. Nous pouvons tirer une première leçon, frères et sœurs. Quand Dieu nous parle, et quand Dieu nous fait une promesse, gardons cette promesse dans notre cœur. Gardons la parole de Dieu dans nos cœurs. Quelquefois, nous sommes tellement pressés que nous allons chercher une autre parole. Une parole humaine. Et les paroles humaines, frères et sœurs, n'ont aucun pouvoir que celle de l'humain. N'est-ce pas ? Attendons la réalisation de ce que Dieu nous a dit. Parce que notre Dieu est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Croissance, explosion démographique, frères et sœurs, c'est super. C'est super, non? Les plans de Dieu dérangent toujours. Et voilà, le pharaon, il est inquiet. Il est inquiet parce que il voit de l'insécurité, une insécurité nationale. Premièrement, si ce peuple se révolte, frères et sœurs, eh bien, je n'ai plus de main-d'œuvre. Je n'ai plus d'économie. Et rappelez-vous, ils sont esclaves, donc la main-d'œuvre est gratuite. Et deuxièmement, une insécurité militaire. S'il y a révolte, ils vont avec les ennemis, les opposants, qui vont encore, ça va gonfler leur armée, et là, ils pourront nous assujettir à notre tour. As-tu déjà entendu cette expression ? Au grand mot, les grands remèdes ? Oui ? Pharaon aussi, il la connaissait. Au grand mot, les grands remèdes, premier remède, on va rendre leurs travaux pénibles. Ça n'a pas marché. Le peuple continuait à croître. Deuxième remède, et c'est à partir du verset 15, on va tuer tout le premier-né mâle. Mais là encore, il y a des sages-femmes qui se sont rebellées contre cet ordre et qui n'ont pas exécuté l'ordre de Pharaon. Tout ce que Pharaon a décidé de faire, cela est voué à l'échec. Et je voudrais sortir de ce contexte, frères et sœurs, pour entrer dans le nôtre, pour entrer dans le tien. Mon frère, ma sœur, le monde des affaires, le monde du travail, le monde du relationnel est parfois très cruel. Et je voudrais que tu le comprennes ce matin. Tout le monde n'est pas ton ami. La pensée du monde, c'est si je veux te marcher sur sa tête et qu'il puisse entrer dans l'eau, le pain respiré, j'ai gagné. Combien de salariés, de cadres, frères et sœurs, vivent cette servitude par rapport à une autorité? Tant bien même que le Seigneur te dit, voilà, je vais te faire prospérer, je vais, afin que tu sois une aide pour cette entreprise. Alors tu ne demandes pas une promotion financière, tu demandes simplement parce que tu as ça à cœur et que tu as les capacités pour le faire. Monsieur, est-ce que je peux accéder à ce poste? Et là, il te reçoit et il te dit, mais Patricia, tu sais très bien que tu as toutes tes aptitudes pour le poste dans lequel tu es. Pourquoi chercher autre chose? Sans toi, l'entreprise est capote. Et me demander de te faire sortir pour arriver à la gestion des ressources humaines, non, je préfère te laisser. Combien d'entre nous avons comme un plafond de verre au-dessus de nos têtes, et que ces hommes comme Pharaon ont la mainmise. Beaucoup. Combien d'entre nous, frères et sœurs, en tant que chrétiens, disciples du Christ, combien n'entrent pas dans leur destinée pleinement? Parce que, et c'est une image, ne dites pas que Fernand a dit que Pharaon, c'est Satan, hein. D'accord, s'il vous plaît. C'est une image. Combien ont cette mainmise de Pharaon, d'accord, qui est là et qui... C'est simple, à chaque fois que tu veux ouvrir la bouche de l'Assemblée des Justes pour louer le Seigneur, tu entends qui croit, mais tu vas faire quoi là? Tu vas faire quoi? Tu vas louer Dieu, mais oh, tu sais pas ce que tu as fait là, dernièrement. Alors, tu penses que Dieu va prendre plaisir à ta louange et à ton adoration? Combien de chrétiens qui sont appelés à servir le Seigneur? Et il y a une mémise. Mais tu es sorti en sixième et tu penses que tu vas prêcher, tu seras pasteur, mais tu t'es entendu et tu veux chanter. Combien, frères et sœurs, et je crois vraiment qu'il faut sortir de ça. Ce matin, nous avons chanté. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, que ta gloire descende dans l'église. Mais bien aimé, je veux te dire, dis à la personne à côté de toi que l'église c'est lui déjà. Et que si on veut voir la gloire dans l'église, c'est-à-dire en ce lieu, il faut qu'elle paraisse déjà dans l'autre et dans moi. Mais je ne voudrais pas refroidir tes ardeurs, hein, avec tes amens, mais est-ce que tu sais que c'est la gloire de Dieu? Est-ce que tu sais qu'elle appartient à Dieu et qu'elle sort de Dieu pour venir nous rejoindre? Est-ce que Dieu donne sa gloire comme ça? Non. Il faut démontrer un amour. Je ne te demande pas, je te dis pas qu'il faut démontrer une vie parfaite. Parce que qui ici-bas mène une vie parfaite devant Dieu? Nous avons une nature pécamineuse, c'est-à-dire une nature pécheresse. Nous sommes assujettis à cela. Et grâce soit rendue à Dieu que par son Saint-Esprit, nous pouvons encore nous sanctifier davantage jour après jour. Nos échecs d'hier sont des victoires pour aujourd'hui. Mais mon frère, ma sœur, je te ramène à une réalité. Parce que tu as su et parce que tu sais que Dieu est bon. Il y a des chrétiens qui disent, péchons. Continuons à pécher. L'amour de Dieu manifesté à la croix. Amen. Dieu me fait grâce, tout et tout, mais on est en croix. Hein? On est en croix exactement. En foule, la grâce de Dieu, le sacrifice de Christ. Et on se dit, Dieu est bon. Si on revenait au temps de l'église primitive, frères et sœurs, je vous rappelle ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, puis vous le savez. Ok. Et qu'on se dit, et c'est là où la parole nous interpelle, on se dit, oh Seigneur, je vais dans ta maison. Puis, Oh Seigneur, il peut se passer, c'est passé avec Ananias et Saphira. Vous imaginez? Et mon frère Dominique, il faut agrandir le parking pour que les ambulances puissent venir dans le parking et attendre les chrétiens qui vont sortir. Et on se dit, non, mais mon frère, ça c'était l'église primitive. Dieu agissait comme ça. Ah, parce que Dieu avait besoin de démontrer sa personne dans sa sainteté. Bon Dieu a changé. T'as rien à changer. Mon Dieu est saint, saint, saint. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucune ombre, aucune variation, aucun changement en lui. Ça veut dire que ce que Dieu réprouve dans l'Ancien Testament et dans toute la Bible, il le réprouve aussi aujourd'hui. Nous avons, et je ne parle pas pour toi, je veux qu'on soit bien toujours, tout à l'heure. Je serai bien avec toi. On ne peut pas venir devant Dieu n'importe comment. Il faut qu'on arrête de prendre notre relation avec Dieu comme une pilule spirituelle du dimanche. Je viens à l'église le dimanche et je prends ma pilule. Je peux tenir toute la semaine. Dimanche prochain, je viens, je reprends ma pilule. La vie chrétienne n'est pas une question de pilule. La vie chrétienne est une question de relation avec Christ. Quand Christ croise notre vie, toutes les barrières tombent. Quand Christ croise notre vie, toutes les représentations religieuses tombent. Dès lors, une vraie relation s'opère entre le Christ, le divin, et l'humain que je suis, misérable condition de pécheur. Comment un Dieu aussi grand peut-il venir habiter en moi? Mais c'est ça tout à l'heure. Je veux te redonner ton sourire ce matin. Indifférence religieuse, dureté de la vie, frères et sœurs, le monde pense que être du côté du plus fort, c'est la meilleure chose. Je pense que moi, non. Moi, je pense qu'il faut être du côté de Jésus. Parce que Jésus est le plus fort. Et si, bah si, mais imagine que Jésus mène le combat pour toi et que le Père t'appelle. Jésus, tu es où? Il dit, là, Père, je souhaite te mener un combat pour Patricia. Là. Il dit, oh, ça fait mon salut. Hein. Et Dieu vient, Dieu le Père vient. Oh, ça fait encore deux. Le Saint-Esprit qui ne se déplace pas sans eux vient. Et la Trinité combat pour toi, parce que c'est pas du côté du plus fort qu'est la meilleure place. C'est en Christ qu'est la meilleure place. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre un peu le fonctionnement du monde, frères et sœurs. Le monde est avec sa sagesse terrestre, la sagesse d'en bas, comme dit Jacques. Et comment il qualifie cette sagesse? Il la qualifie, frères et sœurs, de terrestre, charnelle et même de diable. Dans ce que tu vis, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un contrat sur toi. Peut-être que Satan s'est présenté devant Dieu et a dit « Seigneur, tu as vu Patricia ?» Et le Seigneur a dit « Oui, j'ai vu Patricia. Seigneur, est-ce que tu penses qu'elle te craint et t'honore comme ça ?» C'est un scénario qu'on connaît, n'est-ce pas? D'accord. C'est un contrat. Et bien souvent, frères et sœurs, il y a des contrats qui sont passés sur nos têtes, mais on doit relever le défi. La meilleure solution, c'est quoi, frères et sœurs? Est-ce qu'il faut aller prendre un syndicat parce qu'on n'a pas de promotion? Est-ce qu'il faut aller voir ailleurs des relations familiales quand le mari ou l'épouse n'est pas comme il devrait être, selon nous? Est-ce qu'on doit se dire, eh bien, par mes propres moyens, je vais arranger la situation, ou faire-moi ça, mais mon café, on ça. Je veux dire simplement une chose, si on a subi l'injustice, commettre un acte de justice, nous place sur les bancs des accusés de Dieu. Tu m'as compris? Quand ton voisin se garde devant toi, c'est pas la peine de prendre ta clé et de passer comme ça sur toi. C'est un acte de justice. Quand il se garde à ta place, il est nommé, c'est le P12, c'est à moi, Seigneur. Tu commences à faire des prières. Seigneur, que sa descendance, que sa vie soit. Non. Victime de licenciement, j'ai été victime de licenciement. Je n'ai pas eu cette réaction de. Au contraire, le Seigneur a gardé mon cœur, il était calme. Mais un autre collègue est venu me voir et m'a dit, c'est pas sans ta couleur, mais non frère. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Mais il dit, ah ouais, on te dit que tu es licencié, tu fermes la bouche, tu ne dis rien. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux dire? Tu veux que je vais descendre? Il m'a dit, ouais, je vais voir les syndicats, je veux ceci et cela. Oui, mais voilà. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, frères et sœurs. Nous pouvons quelquefois aller voir les syndicats, voir les avocats. Oh, ta relation ne concerne pas les syndicats et l'avocat. Ta relation te concerne toi et ton Dieu. Quel conseil devrais-je et pourrais-je te donner? Le psaume 37, verset 7 nous dit, garde le silence de vos dieux et espère en lui. Ne t'irrite pas! Ne t'irrite pas contre le méchant. Ce serait mal fait. Parce que frères et sœurs, on ne connaît pas les projets de Dieu pour nous. Quand Dieu trace le croquis, lui, il sait ce qu'il veut faire. Mais nous, on regarde le tableau de loin, on le tourne, on le retourne, on se dit, mais Asma, c'est quoi là ça? C'est qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Mais je te rappelle que, en disant oui à Jésus, quand le prédicateur t'a dit, veux-tu accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce que tu as répondu?
Oui.
Mais ben, tu vois ça? On a répondu oui, on oublie aussi que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que Jésus, c'est le oui et l'amen de Dieu. Alors, cet amen, c'est quoi? Tu veux que je te l'explique ce matin? Oui? Oui, il y a des sourires, mais il y a des visages qui ne veulent pas le sourire. Hein? Cet amen de Dieu, c'est oui, j'accepte que tu fasses de ma vie ce que tu veux. Et là, quelquefois, on n'est pas d'accord. Hein? Jésus, le oui et l'amen de Dieu. Nos aînés disaient, tu manges ton pain noir, mais un jour tu vas. Non, vous connaissez ça aussi? Vous avez déjà mangé votre pain noir? Comment? Tu es en train de le manger. Que le Seigneur le change, ma soeur. Que le Seigneur le change. Souvent, les afflictions, frères et sœurs, les souffrances, les chagrins, la dureté de la vie se transforment en bénédiction. On peut dire Amen, merci Seigneur. Si je prends le cas de Jonas, au chapitre 2, verset 2, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Il a étendu ma voix. Je trouvais un très, très beau passage dans Zacharie, chapitre 13, verset 9, qui disait, je l'éprouverai comme l'or. Il évoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Mais avant cette belle promesse, il est dit, je l'éprouverai dans l'eau. Quelquefois, nos situations en Égypte sont de notre faute. Et quelquefois, frères et sœurs, c'est le travail que l'Éternel opère en nous. Il nous fait passer par le feu de l'épreuve. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas bons. We are not perfect. Il y a des scories en nous. Alors, l'homme sage va dire, oui Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté, n'est-ce pas? Et le chrétien qui n'a pas encore compris va dire, ah ouais, tu m'as lâché sur mon frère. C'est pas moi qui vais passer là, frère. Mais si tu te rebelles contre la volonté de Dieu, quelle œuvre que le Seigneur peut faire en toi? Tu vas rester tel quel. Dans tes pensées, dans ta manière de faire, dans tes actions, puisque tes actions sont produites par tes pensées. On ne va pas voir de changement en toi et on va te qualifier de chrétien charmé. Il faut que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse. Et Dieu, en tant qu'excellent pédagogue, sait très bien que la souffrance fait son travail parfaitement. Je ne te le dis pas de l'idée de cœur. Je ne te dis pas que souffrir, éprouver la dureté dans la vie, c'est quelque chose qui est plaisant. Non, ce n'est pas vrai. Soyons réalistes. C'est quelque chose de très dur. Mais mon frère, ma soeur, à la fin, oh Lord, à la fin de ça, quand Dieu t'aura épuré, quand tu vas ressortir comme une pépite, sans scories, sans déchets, ce n'est pas pour toi que le Seigneur le fait, c'est pour la gloire de son. Les hommes ne te verront pas à toi, ils verront la gloire de Dieu en toi. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Quand je suis tombé sur ce passage, je me suis souvenu d'une émission. Je suis friand des émissions Sciences et Vie, Naturographie, Romain. Je préfère regarder ça au lieu de regarder des Dragon Ball Z. Oui, parce que ça m'a montré quelque chose. Et Barbie et compagnie, d'accord? Là, vous voyez, Barbie lui a parlé, hein, sourire. Ah! Ok. Je te souhaite de belles choses, mon Jésus-Christ. Tu es jeune, tu es belle. Que le Seigneur te bénisse et te libère de sa grâce. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait sa croissance. Oui, j'étais à la géographie, c'est ça? Et j'ai vu un reportage sur les plantes pyrophiles. Mon frère, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une plante pyrophile? Pyrophile, c'est le mot grec. Pyros, pyro, veut dire feu. Et fil, vient de philo, aimé. Ce sont des plantes qui, je ne sais pas si on peut dire qu'elles servent de feu, mais ce sont des plantes qui ont besoin du feu pour se multiplier. D'accord? Pourquoi? Parce que leur principe même de conception, d'accord, c'est une coque. D'accord? Le fruit se trouve dans une coque. Et pour que cette coque se brise, il faut qu'il y ait du feu. Dans les feux de forêt, tout ça, la coque tombe sous l'effet de la chaleur. Et sous l'effet de la chaleur plus intense, pac! Et toutes les graines sont bonnes. Est-ce que tu veux que je développe ou pas? Tu n'as pas compris? Tu as compris? Qui veut que je développe? Je veux passer? On y va? Ok. Alors, je ne veux pas que tu aies peur de ce que je viens de dire. Au contraire, dis Alléluia Seigneur, merci beaucoup. L'épreuve du feu va faire sauter mon armure. Parce que bien aimé, soyons. On est là en prédication, on est entre nous, d'accord? Combien d'armures en tant que chrétien nous mettons? Mon frère, pourquoi tu es comme ça? J'ai remarqué que tu n'es pas bonjour à Jacqueline. Quand elle vient vers toi, tu. Ben parce que j'ai mis une armure envers Jacqueline, parce que Jacqueline, bon, elle est femme de pasteur, et Jacqueline ne comprend pas mes problèmes. Ouais, Jacqueline marche à 10 cm du sol, hein? Hein, et puis voilà quoi. Mon frère, pourquoi tu dis pas bonjour à l'instituteur? Parce que l'instituteur, il est blanc. Mais fais-le, je vais loin de médire. C'est pour vous dire que quand tous les départements de notre vie ne sont pas visités par l'Esprit, il peut rester des traces de, des choses du monde. Vous savez, comment ça s'appelle là, les blancs là, les compagnies ? Le racisme. Il peut rester du racisme. Et parce que je suis un petit nègre avec les cheveux 0-0, eh bien, je n'aime pas la sœur qui a les beaux cheveux. Je dis, Seigneur Dieu, Dieu d'injustice. Seigneur Dieu, Dieu injuste. Est-ce que vous comprenez jusqu'où on peut aller si nous gardons nos barrières? Et dans l'église, il peut s'élever des barrières, frères et sœurs. Oh, je n'aime pas ce frère parce que quand il préside, on ne sent pas l'onction. Je n'aime pas la sœur parce que tout le monde est en train de chanter, elle est là. Elle est là, elle ne chante pas. Mais frères et sœurs, tout le monde manifeste sa joie en Christ comme il veut. Aller dans une église haïtienne, c'est complètement différent de nous. D'accord? Et quand vous allez en Angleterre ou encore en France, d'accord? La réjouissance à l'intérieur, hein? Et l'antillaise pose des questions. On voit, on te dit, mais, vous êtes content, vous êtes en Christ? Oh oui, mon frère, très content. Et nous, antillais, on est, alléluia, alléluia. Nous, quand même, cognons notre classe souvent. N'est-ce pas, ma soeur? On ne sait pas reconnaître comment, pourquoi Dieu fait comme ça en lui et on casse les murs. Ah oui, moi, je fais mon prière chez moi, mon louange, je veux pas inviter la soeur. Hein. Frères et sœurs, le feu de l'épreuve, le feu sur le chemin, brise notre carapace. Pourquoi? Parce qu'il faut, frères et sœurs, que notre foi grandisse. Notre foi, elle est pour nous, elle est en nous. Mais dans l'œuvre de l'Évangile, ma foi, elle n'est pas que pour moi. Ma foi est pour l'autre. Ma foi me fait croire aux promesses de Dieu. Mais il faut que cette foi, elle puisse s'éclater. Ce feu, mon frère, ma soeur, ne va pas te détruire, mais bien au contraire, il va te construire dans ta relation avec Dieu, te construire dans ta relation avec ton prochain. La Bible dit bien que le fer aiguise le fer, n'est-ce pas? Et quand on est encore dans notre coque, c'est la coque qui s'éclate, mais quand on est encore dans notre coque, on ne va pas voir le frère et la sœur. Même si on a besoin d'aide, on est orgueilleux et on ne dit pas au frère, mon frère, j'ai des problèmes avec mon épouse. Parce que, en tant que serviteur, ça ne se dit pas. N'est-ce pas? On a des problèmes avec son épouse. Et moi, je dis, il faut que cette barrière tombe aussi. Serviteur et servante du Seigneur, nous le sommes tous. Et nous passons tous par des moments plus ou moins agréables. Au début du mariage, c'est tiens, coco, tu vas bien, belle. Elle est la plus belle, la plus gentille, la plus jolie, tu sens bon. Et après, quand Dieu veut nous amener plus loin dans cette relation humaine de l'époux et de l'épouse, n'est-ce pas ma soeur? Eh bien, il y a le feu. Il y a le feu, hein. Et puis on dit, mais André, ça fait 3 jours que tu portes cette chemise. Mais ok, c'est un fait, c'est une réalité, mais on peut la vivre autrement. Est-ce que vous comprenez? Tout est bon à dire, mais c'est la manière dont on le dit. Notre épouse semble du coiffeur. Ne lui disons pas. Il était fermé. Ça ne se dit pas, frères et sœurs. Je le dis, mon épouse n'est pas là, elle est au service à Fort de France, elle chante. Mais le jour où j'ai fait cette mauvaise plaisanterie, et je vous jure que je ne vais pas le refaire. Hein. Je lui ai tellement demandé pardon. Je lui ai dit, oh là là. Qu'à un moment donné, je me suis dit, non, arrête de lui parler, va devant le Seigneur. Va demander au Seigneur pardon de cette plaisanterie, et après retourne derrière. Il m'a fallu du temps encore, et elle m'a dit, ok, je te pardonne. Frère et soeur, on a besoin de l'autre, le faire et de faire, où, par où tu passes, certainement que l'autre est passé. Et l'expérience de l'autre va te servir. N'ayons pas peur d'aller au contact de l'autre et de dire, dans la vérité, dans l'amour, ce qui se passe dans nous.
Ma soeur, je ne comprends pas. Je suis là. Il y a une mémie sur moi. Il y a mes enfants, tout ceci. Il y a cela. Il y a ma petite. Il y a patata. Et je ne veux pas entendre que vous me disiez, mon frère, on a tellement vécu l'histoire où on allait se confier à quelqu'un et la personne était répétée. C'est une réalité. C'est vrai, ma soeur, c'est une réalité. Alors, je te donne le conseil. Tu veux bien? Avant d'aller prendre
une oreille,
mets-toi devant le Seigneur. D'accord? Ok. Frère et soeur, l'histoire d'Israël au travers de l'Exode est une histoire de salut, comme a dit notre frère Dominique. L'histoire de salut que Dieu accorde à son peuple. Et je crois que Dieu nous a accordé le salut. Mais le salut, ce n'est pas quelque chose de maintenant, ici et maintenant. Le salut est aussi diachronique. D'accord? C'est-à-dire, au travers de notre vie, il y a la notion du salut. On n'est pas sauvé une fois pour toutes et puis on est assis dans le fauteuil de la grâce. Non. On est sauvé jusqu'à ce que... Est-ce que vous me comprenez? Il faut qu'on tienne le coup. L'épreuve est complexe dans sa définition. Et pourtant, dans son application, l'épreuve est très simple. Et je reprenais un propos que j'ai entendu de la bouche du pasteur Hans-Peter Bolling, et je l'ai retenu. Et peut-être que vous le connaissez. Ce que l'épreuve fait. Mon frère Hans-Peter, il faut reprocher ça. Il ne m'a pas entendu. Ou alors, tu n'as peut-être pas encore prêché ça ici. Oui. L'épreuve rend better. Ou
bite.
Je t'explique. L'épreuve nous rend bite, c'est-à-dire amer, c'est ça? Satisfait. C'est une des fonctions de l'épreuve et elle nous éloigne de Dieu. On en veut à ce moment à Dieu. D'accord? Histoire d'une religion, de l'église. Ah, ma soeur, pourquoi on ne te voit pas? Ah, laisse-moi tout à fait avec l'histoire de Dieu, là, tout et tout, ceci et cela. D'accord? On risque d'abandonner la vie du Seigneur. Ou l'épreuve nous rend bêtes, c'est-à-dire meilleurs. Cela veut dire que dans l'épreuve, je me rapproche de Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. Le secours me vient de l'éternel. D'accord? Et c'est l'épreuve qui fait ça. Et je voudrais, mon frère et ma soeur, que tu gardes au fond du cœur, tout au fond de ton cœur, ce que Jésus-Christ a vécu. Les épreuves qu'il a endurées. Il a enduré la trahison. Il a enduré l'abandon. Il a échappé aux meurtres. Il a vécu l'angoisse. Il a souffert l'agonie. Pour qui? Pour toi et pour moi. Aujourd'hui, ce Jésus à qui tu as dit oui, il y a un certain temps. Ce Jésus est encore vivant aujourd'hui. Et il veut te sauver de ta situation. Il veut te faire sortir de ton Égypte. Jésus veut et est capable encore de te sauver. Jésus veut et est capable encore de manifester sa puissance envers toi. Parce que tu es son enfant. La réponse t'appartient maintenant. Que décides-tu? Soit on a compris qu'on est un enfant du royaume, on est une pierre vivante et sans moi, la bâtisse ne peut pas être utilisée parce qu'il y aura un trou. Et on se dit, Seigneur, d'accord. Je n'ai pas cru pendant un moment, je t'ai délaissé, tout et tout. Parce que frères et sœurs, on peut venir à l'église. Mais ça fait longtemps qu'on a abandonné Dieu. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Tu veux rester sous la main de Pharaon? Le Seigneur a parlé ce matin dans quelqu'un qui était dans un rond-point. Mais arrête de faire les gilets jaunes avec Dieu. Et avance. Le Seigneur a besoin de toi. Je ne sais pas comment te le dire encore. Le Seigneur veut une église vivante. Une église régénérée. Parce que frères et sœurs, avec le nombre des années, avec ce que nous vivons, nous portons nos fardeaux quand même. Hein, nous avons des sacs plus ou moins gros. N'est-ce pas? et nous disons, oh, j'ai la joie dans le cœur. Hein, on est comme ça. Oh, j'ai la joie dans le cœur. J'ai bien la misère, Seigneur. On n'a même pas la force de se redresser. Le fardeau est tellement lourd. Soyons sérieux. Combien de chrétiens sont dans cette situation? Ce matin, je voudrais que tu déposes tes fardeaux. Ce matin, je voudrais que tu vives autre chose, autrement avec Dieu. J'appelle au groupe de louange, s'il vous plaît.